sait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique. Âmes en quête d'aventure ou amateurs de conflits qui n'usent pas trop l'horloge, bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui à un événement tellement bref que si tu clignes trop fort des yeux, eh bien, tu viens d'assister à l'équivalent temporel de la totalité des combats. J'ai nommé la guerre anglo-zanzibarite de 1896. Le plus court conflit de l'histoire humaine, un affrontement d'une intensité telle que même les chronomètres olympiques ont dû vérifier si leur matériel fonctionnait correctement. Prépare-toi, car ce récit va te transporter au cœur d'une tension diplomatique extrême, d'un bras de fer politique redoutable et d'un échange de coups de canon ayant duré moins longtemps que la cuisson d'un œuf mollet. La guerre anglo-zanzibarite, qui commence comme une tragédie shakespearienne et se termine comme un sketch dont on aurait coupé le budget. Voici son histoire. Accroche ta ceinture, tes voiles, ton turban ou ton casque colonial, nous partons pour Zanzibar, au tournant du 19e siècle, quand l'océan Indien sentait les épices, les intrigues et l'humidité tropicale. Imagine maintenant l'île de Zanzibar en 1896. Palais somptueux, minarets, senteurs de clous de girofle et de cannelle qui virevoltent avec les cris des marchands, une carte postale paradisiaque, si l'on oublie bien sûr la présence pesante de l'Empire britannique, cette puissance qui, à l'époque, vivait une étrange passion, plantait des drapeaux partout où le soleil se levait, se couchait ou hésitait entre les deux. Zanzibar, riche, stratégique, fière, était indépendante sur le papier. Mais la Grande-Bretagne exerçait une influence que l'on pourrait, selon le degré de politesse, qualifier de protectrice, envahissante ou carrément omniprésente. Bref, les Anglais veillaient à ce que le sultan en place corresponde à leurs intérêts, ou du moins qu'il ne s'y oppose pas au petit déjeuner. Et justement, en ce 25 août 1896, le sultan Aman bin Tuweni, un homme charmant, sympathique et surtout très apprécié des Britanniques, s'éteint soudainement, subitement, mystérieusement. Je ne suggère rien, mais disons que l'histoire demeure muette, les archives diplomatiques encore plus, et que celui qui a dit « on ne saura jamais vraiment » n'a pas cherché très longtemps. À peine le dernier soupir du sultan échappé, un cousin, Khalid bin Bargash, décide qu'il est temps de saisir sa chance. Et quand je dis « décide », je veux dire courir au palais, s'y enfermer, hisser son drapeau, occuper le trône, convoquer les musiciens et se proclamer sultan. Le tout avec la rapidité d'un influenceur attrapant un code promo en direct. Une sacrée efficacité administrative tout de même. Mais problème, un tout petit détail, Londres avait d'autres projets. Les Britanniques soutenaient un prétendant plus docile, Hamoud bin Mohamed. Hamoud, pour sa part, était très discret, très calme, très conciliant. Le genre d'homme capable d'expliquer diplomatiquement pendant 10 minutes qu'il adore la couleur des tentures que vous détestez. Bref, l'allié parfait pour une puissance coloniale qui voulait contrôler sans en avoir l'air. Alors, imagine la réaction britannique lorsqu'ils apprennent que Khalid, sans leur demander leur avis, sacrilège, s'est emparé du trône. Cela ne passe pas, mais vraiment pas du tout. Les diplomates se crispent, les moustaches britanniques frémissent d'indignation, les chapeaux coloniaux se redressent sur les têtes, on rédige des dépêches, on souffle fortement du nez, on menace poliment, on fronce sérieusement les sourcils. Et surtout, on donne un ultimatum. Le général Lloyd Matthews, qui commande du côté britannique, se rend au palais du nouveau sultan et lui annonce, avec le maintien de celui qui a trop d'empire pour trop de problèmes, Vous avez jusqu'à demain 9h du matin pour quitter les lieux.
Il faut que je vous parle. Je sais très bien que sous prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un truffon. Soit j'en prends mon parti, n'empêche, je crois qu'on a à parler. Visiblement, vous n'allez pas bien. Laissez-moi vous aider.
Casse-toi.
Oh, ça, mais vous refusez le dialogue.
Exactement, je veux pas qu'on parle. Je veux que tu quittes la ville. Et t'as intérêt à te casser avant 9h.
Khalid, jeune, ambitieux, têtu, répond en gros non. Mais en version plus longue, plus solennelle, et avec un peu plus de meubles renversés. On dit que cette nuit-là, il a fait fortifier le palais, mobiliser près de 2800 soldats, équiper quelques pièces d'artillerie et même armer le yacht royal. Un navire élégant, certes, mais vieillissant, mais prêt à combattre quand même, ou du moins à offrir une magnifique cible flottante. De l'autre côté, les Britanniques rassemblent dans le port une flotte de guerre au grand complet. Trois croiseurs, deux canonnières, des marins en uniforme impeccable, des canons suffisamment gros pour faire trembler les marais et des officiers pratiquant l'art mystique du flegme agressif. La tension monte, l'air devient lourd, les épices semblent elles-mêmes retenir leur parfum. Zanzibar retient son souffle. Ou plutôt, une petite partie retient son souffle. Le reste continue de négocier sur les marchés parce que, disons-le clairement, la population locale a vu des sultans passer, des sultans tomber et ne savait même pas encore que l'histoire s'apprêtait à vivre le plus court sprint militaire de tous les temps. 27 août, aube pâle, les navires britanniques sont en position. Le soleil grimpe lentement, trop lentement au goût de certains. Le drapeau zanzibari flotte au vent. Le palais, massif, blanc, s'élève comme un défi. À l'intérieur, Khalid tient bon, ou prétend tenir bon. Nul ne sait jamais vraiment ce que pense un homme qui s'apprête à faire face à quatre navires de guerre modernes sans réelle artillerie. 8h55, un messager britannique arrive au palais. « Il vous reste 5 minutes pour quitter votre trône. » Khalid ne répond pas. Ou peut-être qu'il fait semblant de chercher ses lunettes pour gagner du temps. Personne ne sait vraiment.
« Il est déjà 9h là ?»«
Sur mon fond, il n'y a pas marqué radio réveil. »
9h. L'ultimatum expire. Silence. Le soleil tape. Les marins britanniques attendent l'ordre. On ajuste les uniformes, on se racle la gorge. Peut-être que quelqu'un vérifie sa montre gousset. On doit faire les choses proprement. 9h02. Premier tir. Et c'est là que la guerre entière, commence. Et c'est là aussi qu'elle se termine. Presque. Les secondes qui suivent sont un enchaînement de feux et de fracas. Les canons britanniques font parler leur métal avec l'enthousiasme d'acteurs trop longtemps restés hors scène. Le palais est secoué, ses murs se fissurent, des éclats de pierre volent comme des confettis dont personne n'a demandé la fête. Les batteries zanzibarites tentent de répondre, mais leurs tirs sont maladroits, imprécis et parfois même, selon certains récits, dirigés vers rien en particulier. Le yacht, lui, tire quelques coups avant de devenir un amas brûlant et fumant en quelques minutes. À peine 20 minutes après le premier tir, le palais est une carcasse. Les troupes de Khalid dépassées fuient comme elles peuvent. Certains sautent dans le port, d'autres se cachent dans les ruelles. Tous réalisent que cette guerre n'en était pas une, ou du moins qu'elle n'avait aucune chance d'en devenir une. Vers 9h40 ou 9h45, selon les montres utilisées et la sueur dans les yeux, Khalid quitte le palais en douce. À pas feutrés, presque sur la pointe des pieds. Voir un sultan prendre la fuite par une porte arrière, ce n'est pas anodin, c'est même presque une scène burlesque. Les robes royales qui s'accrochent aux pierres, les gardes qui se bousculent derrière lui, les sabres qui claquent au sol. On raconte même, mais cela relève sans doute du folklore local, qu'il aurait renversé un pot de confiture en fuyant. La postérité ne confirmera jamais. Une fois Khalid hors jeu, les tirs cessent. Les Britanniques relèvent la tête, inspectent les dégâts, prennent des notes pour les assurances peut-être, et déclarent que la guerre, la grande, puissante, terrible guerre, est officiellement terminée. Durée totale estimée 38 à 45 minutes, le temps d'un épisode de série, le temps de faire cuire des pâtes, le temps pour un Britannique de s'excuser trois fois sans raison, le temps pour un zanzibarite d'allumer son narguilé. Bilan, des dommages matériels importants, quelques dizaines de morts côté zanzibari, un seul blessé chez les Britanniques, probablement dû à une chute de tasse de thé un peu trop chaud. Mais, ne soyons pas médisants. Les Anglais placent ensuite leur sultan favori, Hamoud, sur le trône. Ils réorganisent l'administration, ils reprennent les affaires, on balaye les décombres, on répare, on s'habitue, et, comme souvent dans l'histoire, la vie continue. Rallye, quant à lui, se réfugie à la légation allemande. On le retrouvera plus tard fuyant encore, décidément c'est une spécialité, avant de finir ses jours dans une relative obscurité. Et voilà. Une guerre si courte qu'elle remet en question le concept même de guerre. Une guerre sans champ de bataille, ou plutôt un champ de bataille sans le temps d'y réfléchir. Une guerre qui aurait pu être un drame effroyable et qui est devenue, par sa brièveté, un monument d'absurdité géopolitique. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira « ça va être vite fait », pense simplement à cette matinée de 1896 où une guerre entière s'est déroulée entre un thé matinal et une réunion administrative. Et c'est tant mieux, car, comme disait Prévert, quelle connerie la guerre. Hétéroclite et tout azimique.